Ok, très bien. Bon, bonsoir à tout le monde. Donc on va essayer de démarrer quand même, pour ne pas devoir trop galoper pendant la soirée. Oui, non, je croyais que tu voulais. Ok, donc je vais peut-être commencer par la prière et puis on attaquera le texte. Seigneur, merci pour cette soirée que nous pouvons passer ensemble à l'écoute de cette parole qui est la tienne. Nous te remercions pour le témoignage de ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont pris le temps de mettre en forme, en tout cas, le récit de leurs aventures avec toi et qui nous permet maintenant, nous-mêmes, de parcourir cette aventure dans notre propre vie, de vivre pour toi et d'être à ton écoute. Garde-nous pendant cette soirée, bénis tous ceux qui, fatigués ou malades, ne peuvent pas se joindre à nous. Nous te prions pour chacun, chacune, que tu les gardes dans ta présence. Amen.
Amen.
Amen. Je crois que j'ai déjà enlevé la couche.
Pas chaud, chaleur
humaine.
C'est
vraiment
mal. Chez moi, je peut-être
mais si je reste assis 2 heures, 3 heures à travailler.
Oui, après tu as pas.
Voilà. Donc on va d'abord lire le texte et puis s'intéresser aux questions qui étaient liées à tout ça, en vous rappelant donc qu'on attaque les versets 25 à 33, c'est-à-dire qu'on s'arrête juste avant le discours de Pierre chez Corneille. Alors, en résumé, on peut dire que Pierre, qui était convaincu, d'une certaine manière, en tout cas par l'interpellation des visions croisées, la sienne et puis celle de Corneille, ces visions visaient l'intégration des païens dans les communautés messianiques, Pierre décide de répondre à l'invitation de Corneille. Il se met en route avec un groupe de frères de Jopé, on l'avait vu la dernière fois, et tous, tout aussi convaincus que lui, vont rencontrer ce Corneille qu'ils ne connaissent pas. Voilà, c'est un peu le récit du jour. Voilà, alors si quelqu'un veut faire la lecture, il s'agit des versets 25 à 33. Oui, c'est ça. Merci. Oui.
Je commence en 24.
24, 5. Et... 25.
Ah. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » En conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chez vous. » Corneille dit, « Il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison, à la 9e heure. Et voici, un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, « Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc quelqu'un à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé quelqu'un vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. »
Voilà, je suppose que la lecture, on a déjà vu que ça ne correspondait pas toujours à notre traduction, donc elle varie déjà en français à quelques endroits. Et on verra peut-être tout à l'heure pourquoi. Donc la première question que je vous avais proposée d'investigation, c'était d'essayer de comprendre ce que signifiait en tout cas cette histoire de Corneille qui tombe aux pieds de Pierre, puis qui se prosterne. Alors déjà là... Selon les traductions, il n'est pas question de se prosterner. Voilà. Non, c'est ça. Mais je veux dire, dans certaines de nos traductions françaises, on fait fi du grec. Mm-hmm. Le grec parle de 2 actions, tomber aux pieds et se prosterner. Mm-hmm. Voilà. Donc c'est un peu sur cet ensemble que j'avais formulé la question.
D'accord.
Est-ce que quelqu'un a une idée de la signification de tout ça, en tout cas ?
Se prosterner, c'est devant Dieu qu'on se prosterne. Vraiment.
Oui, mais pas dans la mentalité proche orientale.
Non.
On se prosterne toujours devant un supérieur.
Ah, voilà.
Donc quelqu'un qu'on estime être plus gradé, élevé, entre guillemets, plus élevé, qui a une position sociale plus élevée. Donc c'était tout à fait naturel, quoi.
Sauf pour...
Surtout au premier siècle.
Les Romains ne faisaient pas ça.
Ben non.
Ah oui.
C'est bien pour ça que je pose des questions.
Ah oui, c'est bien. Je l'ai lu quelque part.
Yves, franchement, Pierre et Corneille ne se connaissaient absolument
non.
pas.
Non.
Ils ne se sont pas entendus quoi que ce soit.
Non.
Non.
D'accord.
Alors, je ne sais pas si dans certaines de vos versions, il y a parfois un ajout pour expliquer qu'en fait, un des serviteurs, donc un des envoyés, est allé directement en courant dans la maison de Corneille prévenir qu'ils arrivaient.
Ah, oui.
Et ce serait la raison pour laquelle Corneille était sorti. Donc, certains manuscrits, quand même qui datent, hein, pas des tout récents, disent qu'en fait, un des messagers est allé directement à la maison, avant les autres, prévenir, et Corneille vient à la rencontre alors de Pierre et de ceux qui l'accompagnaient. Quoi.
Oui, et Corneille, il est centurion.
Oui.
Ah bah oui,
officier.
Donc il est quand même gradé, quoi.
Oui, oui, oui. C'est quand même un gars qui commande à une centaine de personnes.
Mais pour lui, Pierre, bon, il ne le connaît pas, mais il sait que c'est un homme important. L'ange lui a dit, ben, va voir Pierre. Oh,
mais Dieu.
Donc pour lui...
Quel officier pour
se,
se prosterne devant
ouais.
quelqu'un qui ne le connaît pas,
finalement. Il a fait attention, là,
ouais. Il a compris, Corneille, que c'est Dieu qui envoie Pierre.
Oui,
oui.
Donc,
certaines de nos traductions qui comportent le mot hommage va dans le bon sens, si tu veux. Si on devait. C'est difficile à traduire ce qui se passe du grec dans cette situation. En fait, il tombe aux pieds, c'est-à-dire il tombe à genoux, si vous voulez, et puis ensuite il se prosterne réellement devant, mais il ne se prosterne pas devant Pierre. Et d'ailleurs, Pierre le comprend aussi. Pierre ne pense pas une minute qu'il est idolâtre, hein, loin de là. Il faut dire qu'il y aurait eu moyen de penser que, puisque dans la mythologie gréco-romaine, des demi-dieux, ça existe.
Oui, oui.
Des hommes qui sont à la fois Dieu et l'homme, voilà, représentant des dieux et tout ce qu'on veut. Donc on aurait pu imaginer, mais le texte, l'exégèse, ne tend pas à prouver qu'il s'agit là d'un acte idolâtre. Bien au contraire, il s'agit de quoi alors ?
De référence,
le respect.
Alors, une question de respect. Donc, le centurion estime que Dieu, lui envoyant quelqu'un qui a une mission particulière pour lui et ses invités, mérite le respect, mérite les salutations proche orientales. Ce qui montre à quel point Corneille est intégré dans la culture hébraïque du moment. Donc, ce n'est pas juste quelqu'un qui est ami de Dieu et qui va à la synagogue de temps en temps, c'est quelqu'un qui semble avoir adopté quand même les us et coutumes de l'époque du 1er siècle, en tout cas dans le monde juif. Hein. Voilà. Donc,
un rôle de vie, il traduit bien, je trouve.
Et alors, il dit quoi ?
Il dit, il se jeta à ses pieds pour le saluer avec grand respect.
Ah oui,
parole de vie, c'est pas mal ça.
Bon, comme c'est courant, c'est presque ça aussi.
Comment déjà Et puis peut-être aussi parce qu'il reconnaît la mission de Pierre aussi.
Il ne la connaît pas encore.
Oui, mais il sait qu'il est mandaté par Dieu.
Ah oui, c'est ça.
La vision, en tout cas, est là pour l'authentifier. Donc pour lui, c'est quand même quelqu'un d'important qui vient à sa rencontre et qui surtout a accepté l'invitation. Parce que
il le reconnaît
voilà.
En même temps.
C'est bien que Dieu lui dise va chercher Pierre à Jopé, mais si Pierre ne veut pas venir à Césarée, ça.
Toujours de marche.
Voilà. Enfin bon, qu'est-ce qu'on peut tirer d'autre de ce verset 25 ? Donc on a parlé de respect, on pourrait même parler d'humilité d'une certaine manière pour cet officier romain. On peut aussi peut-être tirer l'idée que ben voilà, ça ne se passe pas dans la maison, ça. Ça se passe donc dans une sphère publique, à tout le moins dans la rue, l'allée qui mène à cette maison.
Ah
peu importe. Donc c'est à l'extérieur, des lieux. La preuve se trouve au verset 27, puisque c'est au verset 27 qu'on nous dit qu'il entre enfin dans la maison. D'accord ? On y reviendra tout à l'heure.
Il n'a pas peur de ses opinions, en tout cas.
Non. Et c'est ça qui était très intéressant dans le cas de Corneille. On a déjà vu ce qu'il était au niveau religieux, etc. Toute l'adoption qu'il a faite, tous les gens qu'il réunit autour de lui, les gens de sa maison, les amis intimes, tous des gens qui, comme lui, ont opté pour adorer ou vénérer le Dieu d'Israël. C'est quand même tout à fait incroyable pour l'époque. Je veux dire qu'un officier romain soit compromis à ce point avec les us, coutumes et religions du pays qu'il occupe. Voilà, c'est pas rien. Ouais. Voilà, donc je pense que si on a bien compris ça, c'est bien.
Mais oui, et Corneille, donc, c'est un Romain qui un craignant Dieu, oui. Proche des Juifs, mais il ne sait... Est-ce qu'il sait que Pierre est apôtre, est disciple de Jésus?
En tout cas, le texte ne le dit pas, donc on peut supposer qu'il n'en sait rien non plus. Et d'ailleurs, dans sa vision...
Est-ce qu'il a entendu parler de Jésus ?
Voilà, c'est toutes les questions. Moi, je pense que non. Je pense que la suite va nous montrer que non. Donc lui, il est vraiment un adorateur du Dieu d'Israël, tel qu'on l'adore dans le milieu de la synagogue. Il ne se pose pas de questions, mais c'est comme s'il pressentait qu'il lui manquait quelque chose. Donc la vision vient... en réponse à ses prières et puis aussi à sa conduite de piété qui honore Dieu, il est mandaté, rappelez-vous, dans la vision, il est appelé à inviter quelqu'un qui se prénomme Simon Pierre. Il n'y a pas d'autres renseignements. On ne sait même pas d'où sort ce type. En fait, il habite chez le corroyeur du coin. Voilà, il n'en sait pas plus, à mon sens. Et je pense que le fait que Pierre arrive avec le fameux groupe dont on a parlé la fois passée, les frères de Jopé, on a vu que dans le chapitre 11, ils étaient 6, donc ils arrivent à 7, ça doit quand même parler aussi au centurion. Il invite une personne et il en reçoit 7 parce que c'est important. Manifestement, il y a quelque chose qui sort des normes, quelque part. Donc, excellente question. Mais alors, quelle est la réaction de notre ami Pierre, justement, lui qui est apôtre, justement, lui qui pourrait se prévaloir d'avoir une mission importante, un titre, une fonction?
Il le relève tout de suite.
Oui.
Donc il ne se laisse pas honorer, si je puis dire comme ça.
Ok, il dit qu'il est simplement à l'ordre.
Donc, première chose qu'il lui dit, c'est « lève-toi ». C'est quand même assez direct. Oui. C'est la première réaction de Pierre. Surtout pas trop insister sur le côté hommage. Et on peut dire que cette réaction, elle s'inscrit aussi chez Pierre dans l'humilité. On a vu combien Pierre a adopté dans le passé de nos études sur les actes des comportements plutôt humbles, tout en étant le grand leader de Jérusalem. Même parfois humble devant le Sanhédrin. Il ne fait pas de la provoque non plus inutilement. Donc sa démarche s'inscrit là.
Ce qui est surprenant dans le grec, c'est « lève-toi, moi-même, je suis
».
On ne dit même pas «
je
même
suis pas, un homme ». Exactement, on y reviendra dans un petit moment. C'est assez intéressant, Quand on peut avoir accès au grec, on se rend compte combien nos traductions... C'est pas qu'elles pêchent, mais... Elles ne disent pas toujours ce qui est, quoi.
On ne sait pas l'exprimer.
Et c'est d'autant plus interpellant que dans l'Évangile, et surtout dans Saint Jean, quand il y a « je suis », c'est Jésus qui dit « je suis Dieu ». Voilà. Mais c'est pas ça quelque chose à voir avec eux ?
Non, je ne le pense pas. En tout cas, l'idée de refuser... la prosternation de Corneille, le fait qu'il lui intime de se lever, vous remarquerez que d'ailleurs il l'aide à se relever, ce qui est encore une autre marque de reconnaissance et d'humilité. Pierre l'aide à se lever, il ne laisse pas se débrouiller tout seul. Mais au fond, je pense qu'on pourrait dire que si Pierre réagit ainsi, c'est aussi parce que Pierre pense, tout comme Corneille à mon avis, que l'hommage revient à Dieu. Et donc il n'a pas à lui rendre hommage, c'est plutôt à Dieu qu'il faudrait rendre hommage pour la circonstance, pour le fait de la vision, pour le fait de la rencontre, dans les deux cas en tout cas. Et alors, comme tu le dis, au lieu que nous ayons dans nos traductions, mais bon, lève-toi parce que moi je ne suis qu'un homme comme toi, sous-entendu, le grec dit aussi moi-même je suis. Sous-entendu, je suis comme toi. Tu es un homme, je suis comme toi. Tu es officier romain, moi je suis le chef des apôtres ici, je suis des Indiens. Mais on est égaux en humanité. Et je pense que ce n'est pas anodin ce qui se passe là, parce que dans cette courte phrase, Pierre souligne non seulement l'égalité, l'égalité absolue devant Dieu, sous-entendu, ils sont tous les deux des hommes, quelle que soit leur différence. L'un est juif, l'autre est gentil, ou gentil païen. L'un est envoyé de Dieu, l'autre est un officier romain. Mais on peut en tirer la conclusion que tous deux méritent d'être aimés et sauvés par Dieu. C'est comme ça que Pierre voit les choses, en tout cas. Donc le refus d'un trop grand hommage rendu à sa personne va dans le sens d'une reconnaissance de leur propre humanité devant Dieu. Tous les deux s'équivalent devant leurs besoins de repentance, de pardon, de salut, etc. etc. Et l'insistance, finalement, sur leur appartenance à une même humanité peut aussi signifier que Pierre abolit, donc de lui-même cette fois-ci, la différence juif-gentil. Donc il comprend intérieurement qu'il ne peut pas accepter l'hommage de l'officier romain parce que finalement, il n'y a pas de différence, il n'est pas meilleur que Corneille. Mais je pense qu'il s'assure peut-être aussi par là qu'il n'y aura pas chez Corneille une quelconque tentation d'idolâtrer la situation. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc tout concourt au fait qu'il démystifie un petit peu son propre personnage. Voilà. Son aura, après tout, c'est le juif qui vient l'enseigner. Ben, il aurait pu se faire la grosse tête et puis accepter les hommages et puis faire valoir ses droits, et patati et patata. Or, on verra dans la suite que ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Et alors, qu'est-ce qu'on avait comme autre question ? Ouais, que peut-on déduire de l'analyse du verset 27a, que je vais quand même relire pour l'occasion, et tout en conversant avec lui, il entra.
Justement, il marque l'égalité. C'est ce qui m'avait frappé. Moi, il converse comme on parlerait avec un ami, un voisin.
Ça lui était interdit, mais il avait déjà fait un premier pas en accueillant des autres.
Et n'oublions pas qu'ils sont à l'extérieur. Donc il y a peut-être des témoins de cette scène. Un officier romain qui vient de se prosterner devant un juif, et le juif qui le relève, et puis ils commencent à papoter tous les deux. Et ce qui est intéressant, c'est que le verbe « converser », qui est ici en grec, c'est un verbe qu'on utilise pour des longues conversations. Donc il ne s'agissait pas... il ne s'agissait pas de pure forme de politesse ou d'amabilité. Donc ils sont en train déjà d'entamer un sujet, on ne sait pas lequel, mais en tout cas ils conversent, ça prend un certain temps à l'extérieur, et puis finalement, comme le précise le texte, il entra. Et ici c'est un « il entra » au sens « c'est Pierre qui entre ». Oui, il est tout seul, à la limite, c'est assez rigolo. Il entra, mais il entra pourquoi ? C'est un peu le côté mise en scène de Luc. Luc veut nous faire comprendre que Pierre se retrouve seul devant tous. Et il ne s'y attend pas. Lui, il pense qu'il n'y a que Corneille, et qu'il va s'adresser qu'à Corneille. Donc il avait déjà entamé la conversation, et il pense que ça va se poursuivre à l'intérieur, mais à l'intérieur, à peine il entre, alors le grec dit « il trouve », c'est assez rigolo aussi, et il trouve là, effectivement, beaucoup de personnes, dont on ne sait pas le nom, mais comment ça commence à chiffrer apparemment.
Beaucoup de personnes.
Et tout ça nous montre aussi, ce court verset 27a, que s'il entra, c'est qu'il était toujours bien à l'extérieur. Donc on est seulement maintenant, enfin chez Corneille, si vous voulez, à partir de 27b en tout cas. Et il découvre là une... Alors, assistance nombreuse, peu importe la formule qu'on a dans nos traductions. Et il semble quand même que Pierre soit surpris de trouver autant de gens, sous-entendu autant de païens, rappelons-le, et que cela nécessite alors directement une mise au point. Parce que quand il la question 4, ça, hein, quand il prend sa prise de parole, une fois entré chez Corneille, pourquoi le fait-il ? Parce que finalement, tout d'un coup, il lâche Corneille, vous voyez ce que je veux dire ? Jusque-là, il était avec Corneille, il s'entretenait avec lui, mais là, découvrant l'assistance, eh bien, il prend une sorte de forme de parole publique et il s'explique sur quoi ?
Sur sa présence, déjà, oui. Qu'il entre là, alors que c'est interdit par la loi, mais que, voilà, il a eu...
Donc, dans les versets 28 à 29, il va expliquer pourquoi lui, qui est juif de naissance, pas par adoption, juif de naissance, il accepte d'entrer chez Corneille, et finalement, pris au piège de côtoyer des non-juifs. Parce que lui, il ne s'attendait peut-être pas à ça, nécessairement. Mais en même temps, il doit être aussi agréablement surpris de voir que Corneille a pris le temps de convoquer des gens parce qu'il estime que sa venue est importante pour lui comme pour toute l'assistance qu'il a invitée. Et que commence à dire Pierre alors ? Comment il commence son petit discours là ?
Que Dieu lui a fait, ça vient de Dieu, son attitude, c'est parce que Dieu lui a fait comprendre.
Ça, c'est ce qu'il explique.
Ce qui est étonnant, c'est qu'il dit « vous savez ».
Ah oui, oui, c'est très intéressant, parce que ça montre qu'il a aussi bien percuté que ceux qui sont là sont au courant des coutumes. Alors, est-ce qu'ils en ont discuté en entrant, avant d'entrer ? Moi, je pense que Pierre ne savait pas qu'il y avait du monde, mais sans doute que dans la discussion, il a un peu perçu qui était Corneille. Donc, il voit bien que Corneille connaît les coutumes. Le seul fait qu'il se soit tombé à ses pieds, etc., ben, tout ça explique bien la situation. C'est un craignant Dieu, même s'il n'est pas circoncis. Donc, c'est plutôt des bons points, on va dire. Et puis là, ben oui, il leur dit, comme vous le savez déjà. Donc, moi, je suis juif et normalement, je n'ai pas le droit d'entretenir des relations. Alors, il y a certaines versions qui... Vas-y.
Parce que, finalement, je ne comprends pas. Parce que les craignants Dieu, ils sont proches des juifs. Et donc, pourquoi ils peuvent aller côtoyer...
Ça reste quand même...
Que les païens ne peuvent pas les côtoyer, ça, je comprends. Mais les craignants Dieu...
Mais sont tous d'origine païenne. Et en plus, il n'est pas circoncis. Il aurait fait un espèce d'adoption totale, si tu veux, de la religion du judaïsme. Ça ne poserait aucun problème. Mais le fait de ne pas être circoncis, ça te laisse quand même à demi-juif ou à demi-païen, si tu veux. Quelque part, il y a quelque chose de pas... Et tu ne sais pas si ces craignants Dieu ont adopté tous les rituels. C'est-à-dire, est-ce qu'ils pratiquent, je ne sais pas, par exemple, à la période de Pâques, est-ce qu'ils ont chassé le hametz ou est-ce qu'ils ont laissé de la poussière partout ? Est-ce qu'ils mangent dans les mêmes plats la viande, le lait, tout ce que tu veux ? Tout ça, ça pose problème. Oui, donc tu peux imaginer qu'un craignant Dieu n'observe pas totalement la loi.
Et c'était uniquement quand ils étaient circoncis qu'ils pouvaient aller à la synagogue.
Non. Tu peux aller à la synagogue, même un païen comme nous, on peut y aller. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, entretenir des relations style amitié, amour, etc., ça c'était forbidden. Hein. C'est pas possible ça. Puisque tu ne te convertis pas, puisque tu ne veux pas être juif.
Complètement.
Voilà. Donc il y a quand même un petit doute là, si tu veux. C'est pas aussi fort qu'on pourrait l'imaginer, dans le sens où des craignants Dieu n'auraient pas de relation du tout. D'ailleurs, quand Pierre dit que ce qu'ils n'ont pas le droit, Pierre est en train de faire la lecture pharisienne des choses. C'est-à-dire que les pharisiens vont au-delà de la loi. Parce que pour les pharisiens, tu ne pouvais même pas entretenir de relation avec des gens avec qui tu commerces, par exemple. Voilà. Donc, à part la transaction commerciale, oui, mais le contenu qui va avec, aller au restaurant, bouffer un kebab, bon, je ne sais pas quoi, ça, c'est pas possible. Il n'y a pas le droit.
Ou une tasse de thé.
Mais Jésus, explique bien que toutes ces règles-là, avant, je ne vais pas dire vont disparaître, mais doivent être améliorées ou doivent être un peu changées. Ou sinon, c'est foutu, je veux dire.
De toute façon, elles vont l'être. Elles vont l'être de facto à partir du moment où les païens pourront entrer dans la communauté messianique.
C'est le but, c'est de répandre, disons, ce que Jésus veut dans le monde entier, d'abord dans la région. Mais donc, si ça se limite uniquement à ce que tu dis, les juifs, là, à ce moment-là, il y a un problème. Mm-hmm.
Donc, notre cher Pierre essaye d'expliquer à ces braves gens qui sont d'origine païenne pourquoi il a accepté l'invitation et pourquoi il reste avec eux. Parce qu'il aurait pu ressortir illico presto s'il avait estimé qu'une telle assemblée de païens n'était pas gérable pour les règles que lui a. Et d'ailleurs, dans certaines de nos versions françaises qui vont un peu fort avec la cuillère, on dit carrément que c'est un crime. Bon, là, c'est un peu fort poussé, je trouve. Parce que le grec est beaucoup plus neutre. Le grec parle d'interdit, par exemple, quelque chose d'un peu illégal, d'illicite, mais quand même pas une chose dramatique. Oui, je ne sais pas pourquoi la taupe a pris cette option, je ne comprends pas trop.
Pourquoi est-ce qu'il fait la distinction entre être ami et entrer, tu vois ? Être ami, c'est une chose, mais ça, c'est, je n'ai pas le droit d'être ami, non plus d'entrer, quoi. C'est deux trucs différents. Oui. C'est vraiment dans la loi.
Et alors, c'est encore pire dans l'idée d'entrer dans l'intériorité d'une maison dans laquelle on n'observe pas les rituels.
C'est entrer dans son intimité. Oui.
Tu entres dans l'intimité, et puis si on t'offre à boire, tu vas faire quoi ? Tu vas dire non. Donc, c'est pour ça qu'il ne se laissait pas inviter. Et il n'invitait pas non plus. Mais là, donc. Il entre.
Bête question, mais comment il savait si les gens étaient craignant Dieu, s'ils étaient circoncis, s'ils étaient...
À mon avis, il n'en sait rien. Il fait confiance à la vision, à sa vision. Ouais. Il a été appelé à y aller, il y va, il obéit, même s'il ne comprend pas tout. Peut-être même qu'il a un peu la trouille là, en découvrant l'assistance. Hein. Et en plus, il a embarqué tous ses copains, ses petits copains avec.
Comme ça, il n'y a rien de témoin. Hein.
Qui doivent peut-être pas emmener beaucoup plus large que lui. Mais
il a bien compris sa mission, puisque la phrase suivante dit bien ce à quoi il s'attendait, donc il obéit. Mm-hmm.
Alors, le texte, il dit quoi ? Il dit, c'est donc un crime, entre guillemets, pour un juif que d'avoir des relations suivies, ça c'est une partie de la phrase, ces relations suivies, c'est un verbe très fort, on l'a déjà vu d'ailleurs dans une de nos études, Colasta ici, c'est coller. Donc on n'a pas le droit de coller ensemble, d'être si proche, vous voyez ce que je veux dire, dans le vrai sens du terme, de s'associer, de se lier. Donc ça, on peut le comprendre, entre juifs et païens. Donc au fond, c'est un verbe qui implique vraiment des relations intimes, amitié, voire davantage. Et puis après, il y a la mention, ou même quelques contacts avec un étranger. Là, on est plutôt dans le domaine public, de la rencontre inopinée, de la visite éventuellement. Mm-hmm. En tout cas, des relations du quotidien, les relations obligées. Si je vais à la poste et que c'est un Romain, ben, je fais avec, quoi. Tu vois, j'ai pas le choix. Donc, cette exigence-là, cette idée qu'on ne peut pas côtoyer d'étrangers... Dans l'ordre du quotidien, est vraiment une règle des pharisiens. C'est absolument pas dans la loi. Bon. Donc elle va au-delà de la loi, finalement, cette exigence. Mais donc, lui, il explique tout ça. Mais il rajoute, comme tu l'étais en train de le dire, Robert, quelque chose de très intéressant au verset 28. Et d'ailleurs, on peut se demander, je devais poser une question là-dessus.
Même pas. Non. C'est dans la 4, quoi, en fait.
Donc, fait, il lui dit... je remets mes lunettes, ça ira peut-être mieux, d'ailleurs. Dieu vient de me faire comprendre. Là, on peut s'interroger. Il vient de le faire l'instant.
Oui,
peut-être.
Non,
on ne sait pas.
En tout cas, il n'y a pas très longtemps, oui. Donc, vraisemblablement, même si ce n'était pas juste avant, on sait qu'à cause de sa propre vision, Pierre est déjà travaillé par l'idée de la rencontre avec des païens.
Mais ça l'a peut-être travaillé tout le long du chemin.
Et finalement, ça ne date qu'il y a deux jours pour lui. Mm-hmm. La rencontre avec les envoyés, puis le voyage avec les envoyés, deuxième journée, puis mais enfin l'arrivée à Césarée.
Ce qui est quand même interpellant, c'est que sa vision, c'est avec des animaux, et s'y transpose tout de suite pour les hommes.
Non, ça, on va le voir.
Ça allait de soi.
Ouais, on va y venir. C'est assez intéressant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre sa vision et jusque-là, son arrivée à Césarée?
Le voyage.
Non, oui, en fait, dans l'ordre, il a déjà eu la vision trois fois, quand même. Trois fois la mention du contenu de la vision. La rencontre avec les envoyés, l'hospitalité qu'il a donnée, la nuitée passée ensemble, le voyage. Tout ça, à mon avis, a concouru à cette espèce d'éclairage, on va dire, oui. Pierre, maintenant, est en train vraiment d'intégrer. Et c'est peut-être pour ça qu'il dit que Dieu vient de lui faire comprendre. C'est peut-être qu'il a fallu ces deux jours-là de maturation pour qu'il soit prêt à rencontrer une assemblée auquel il ne s'attendait pas, nécessairement. Et donc, il dit ça.
Pourquoi est-ce que c'était un ange et maintenant c'est un homme
blanc? Oui, mais on...
Enfin, peut-être pas d'importance.
C'est puisqu'on m'a...
On va y aller pas à pas, parce que sinon je vais m'égarer moi-même. Donc au fond, ce qui est intéressant, c'est de noter qu'en l'espace de deux jours, Pierre a commencé à déconstruire les traditions qu'il a toujours eues. Donc les règles, les traditions, les coutumes, etc., auquel il était soumis. Et là, il commence à faire autrement. Ceci dit, ces traditions, elles vont garder une certaine emprise sur lui, parce qu'on ne se défait pas comme ça de, je ne sais pas moi, 40, 50 ans d'existence dans un moule bien particulier. Et Dieu sait si celui des Juifs était quand même bien carré. D'ailleurs, on le voit, plus, si vous avez l'occasion de relire dans Galates 2, vous verrez que Pierre se fait passablement engueuler par Paul, parce qu'à un moment donné, au lieu de fréquenter les païens et de manger avec eux, il s'est barré. Et il a laissé Paul en plan avec les païens, et lui, comme ça, il était tout clean, quoi, tu vois. Là, Paul lui est rentré dans le chou. Donc ça, c'est dans Galates 2, verset 11 et suivant, si ça vous intéresse.
C'est avant ou c'est après, ça?
Après. Ça montre à quel point... On peut être convaincu dans sa tête, mais finalement, ne pas arriver à tout vivre d'un coup. Ce n'est pas simple. Finalement, celui qui a le plus osé dans l'affaire, c'est Paul. Paul, lui, il est passé d'un truc à l'autre, et hop. Alors, lui était pharisien d'origine. Alors, maintenant, on va essayer d'aller dans ton questionnement, Brigitte. Tu as raison de dire, comment a-t-on pu passer d'une vision sur des animaux à quelque chose qui aurait à voir avec les humains. Mais avant, si tu veux bien, je vérifie un truc. Ouais, ça va. Donc, il dit en clair qu'il ne faut plus déclarer immonde, ça dépend des traductions, ou impur, aucun homme, sous-entendu, ni juif, ni païen. Le grec dit qu'il ne faut déclarer souillé ou impur, peu importe, aucun homme. Ça, c'est déjà un peu plus exact par rapport à nos traductions.
Et l'homme, c'est humain, c'est pas homme opposé à la femme.
Exactement. Donc les humains, l'humanité. Voilà donc le cœur de la vision. C'est là qu'on se rend compte que Pierre a compris, même s'il ne sait pas toujours l'exécuter. Il a bien compris intellectuellement, il a intégré ces choses. Les incirconcis ne doivent plus être considérés comme impurs. Mais quelle est la raison? Et c'est là qu'on en vient aux animaux.
C'est pas le choc. Tu vois, il rentre et il voit que des étrangers. Il a un choc Et là, tu dis, mais Dieu vient de me montrer,
oui.
Paf, que des étrangers. Et Dieu vient de me montrer.
Maintenant, qu'est-ce qu'on fait?
Ah ouais.
Et donc, il essaye d'expliquer que jusque-là, quel est l'obstacle qui fait qu'un juif ne peut pas fréquenter un païen?
Ne peut pas.
Exactement.
C'est
l'alimentaire. Les règles alimentaires sur les animaux perturbaient la possibilité qu'il y ait des relations suivies entre gentils et juifs. Donc, comment imaginer des communautés messianiques où se retrouveraient des païens et des juifs alors que la norme serait maintenue? Ben, il ne pourrait déjà pas y avoir de Sainte-Seine commune. Pas d'agape ensemble. Hein, les païens d'un côté, les juifs de l'autre. On imagine une communauté messianique comme ça, c'est pas très attrayant. On n'a pas tellement envie d'y entrer. Hein. Non, non. Donc Dieu fait bien les choses. Il a commencé à casser le mythe, entre guillemets, des règles alimentaires obligatoires pour pouvoir permettre la rencontre et la communauté de vie entre païens et juifs. Donc la nouvelle ère, c'est-à-dire, rappelez-vous toutes les promesses de l'Ancien Testament, y compris celles du début des Actes, toutes les nations vont être invitées, convoquées au message de la bonne nouvelle. Mais comment ça peut se réaliser si les barrières subsistent entre les Juifs, qui sont les premiers missionnaires, ne l'oublions pas quand même, hein. Voilà, c'est quand même eux qui font le boulot du début. Comment transmettre la foi aux païens si les Juifs continuent à se préserver, à observer toutes leurs règles, à ne pas avoir une communauté commune de vie? Ben, ce n'est pas possible. Et donc ça répond, Brigitte, je pense, assez bien à ta question. Au fond, il fallait l'annulation de cette différence alimentaire, d'ordre alimentaire, pour que les païens, qui consomment jusque-là des animaux impurs, n'est-ce pas, puissent aller à la rencontre des Juifs, vivre, j'allais dire, dans la dépendance des Juifs, de la communauté messianique de départ, et donc en supprimant la distinction pure et impure au sujet des animaux, Dieu rend désormais possible ces fameuses relations auxquelles aspire une partie des païens, la preuve avec Corneille. Et donc, du coup, que ce soit à Jopé avec les envoyés ou que ce soit à Césarée avec Corneille, on va pouvoir partager un verre, le verre de l'amitié, on va pouvoir manger un bout ensemble, sauf, et on le verra plus tard dans les Actes, mais aussi dans d'autres textes de Paul, sauf en ce qui concerne les viandes consacrées aux idoles, sacrifiées aux idoles, et le sang, parce que ça va rester. Donc les Juifs n'accepteront pas qu'on puisse manger le sang d'un animal. Et les animaux étouffés. Donc c'est ces trois exceptions qui seront d'ailleurs, c'est dans Acte 15, si je me souviens comme ça de tête, et dans certains textes pauliniens, où on va bien insister, c'est la seule condition que les apôtres ont mise pour la rentrée des païens dans la communauté messianique. Qu'ils s'abstiennent de bouffer des viandes consacrées aux idoles, qu'ils respectent le sang, puisque le sang, c'est la vie, et donc ça va demeurer, et qu'on ne mange pas d'animaux étouffés. Voilà. Mais en dehors de ça, tout le reste va être possible. Et donc, moi, je trouve ça aussi admirable, parce que quand on pense aux visions, à la vision de Pierre, on se dit, ben dis donc, je comprends maintenant pourquoi il a fallu trois fois répéter les choses, parce que ça n'allait pas de soi. L'idée même, déjà, d'intégrer des païens, mais l'idée que des païens pourraient venir souiller la communauté messianique parce qu'ils mangent n'importe quoi, ça posait quand même un fameux problème, quoi. Un obstacle majeur, quand même.
Et pourquoi que les bêtes étouffées, pourquoi on ne mangeait pas ça? Je ne sais pas.
Ah, je n'en sais rien, ce que peut passer, maman. Pourquoi? Ça fait partie des rites, mais je ne connais pas, donc je n'ai pas creusé la question. Pourquoi pas étouffées? Peut-être parce que le sang n'est pas versé, justement. Le sang reste dans le corps. Je suppose.
Probablement.
Je suppose que oui.
C'est ça, quand
même. Ouais, si le sang coagule à l'intérieur, c'est foutu.
Oui.
Mais ce serait à vérifier, quand même. Alors, après, je ne sais plus ce que j'avais demandé, mais...
Un détail bien lucanien, là.
Oui, on va y venir. Alors, il reste encore un petit bout du 29 que j'aimerais élucider. Quand il dit finalement... alors, je ne sais pas ce que vous avez comme traduction. Moi, j'avais, je crois, dans la top, c'est sans aucune réticence. C'est sans aucune réticence que je suis venu.
Objection. Oui, d'accord. Pas d'objection à venir.
Donc, de nouveau, la top la pêche un tout petit peu. Parce qu'effectivement, l'idée, c'est... en grec, on dit sans contredit, sans contradiction, sans objection, sans argumenter, sans protestation, si vous voulez. Donc, au fond, Pierre est en train de leur dire, mais convaincu par les visions que j'ai eues, et puis par ce que je vois ici, ben oui, alors je peux vous affirmer que c'est sans réticence que je suis venu. C'est-à-dire que je ne vois pas l'ombre d'un problème à être parmi vous. Et puis alors, il y a le fameux détail lucanien auquel on va arriver. Dans le verset 30, donc rappelez-vous...
Je ne sais pas, vous posez.
Oui.
Avant, il dit... attends. Hein. Puisque vous m'avez appelé, c'est Corneille qui a appelé...
Oui, hein, puisqu'il s'est venu chercher à Joppé.
Il est invité. Ouais. Lui, il a été préparé à quelque chose qu'il ne comprend
lui,
pas.
Qui
Pierre.
Pierre, c'est ça. Donc il a été préparé. Corneille aussi a eu une vision, puisqu'il devait envoyer des gens chercher...
Inviter ce fameux Pierre.
D'accord, ça va. C'était pour savoir.
Corneille a eu une vision avant.
Puisque vous m'avez appelé...
Oui, à la sixième heure et l'autre à la neuvième heure.
Donc, il a été quand même prévenu.
Qui, Pierre ?
Pierre.
Oui. Pierre, tout ce qu'il sait, c'est qu'il va se passer quelque chose qui a à voir avec l'abolition de la différence pure-impure.
Oui,
mais dans le fond, s'il va découvrir par les messagers qu'il est invité chez Corneille, mais lui ne le sait pas.
Il ne le savait pas à ce moment-là. C'est ça qu'il voulait savoir.
Non, on aurait pu imaginer que Dieu se contente d'une seule vision et dise à Pierre, tu vas chez Corneille, tu files en vitesse. Voilà. Ouais. Mais là, non.
Non, c'est le contraire.
Donc, Corneille, lui, sait très bien qui il invite. Mais Pierre ne sait pas, oui, ouais. Ça c'est effectivement.
Il ne sait pas pourquoi.
Lui, il ne sait pas trop pourquoi.
Mais
sauf
mais
que.
Ni Corneille, ni Pierre.
Dans le fin fond des choses, ni l'un ni l'autre ne sait. Sauf que ça a à voir, pour Pierre, il sait déjà qu'il y a quelque chose qui a à voir avec la notion de pur et d'impur.
Voilà, c'est ça.
Et Corneille, quelque chose c'est sa réponse à ses prières.
Exactement.
Ils savent tous les deux que c'est. Piloté par Dieu.
Exactement.
Mais je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Ben voilà, là je suis arrivé. Mm-hmm. Que voulez-vous ?
Exactement.
Et il ne sait pas encore.
Il prend la température de quelles sont les attentes des gens qui sont tous venus en plus. Hein, Pierre Corneille lui dit ben oui, moi j'ai invité tous mes amis, etc.
Mais c'est pas pourquoi non.
Ah, si, lui, c'est bien, il veut certainement avoir des réponses.
En tout cas, ce que Corneille attend, et ce que les autres vont lui dire d'ailleurs à un moment donné, c'est qu'ils attendent quelque chose de lui.
Voilà.
De la part de Dieu.
C'est ça.
On y reviendra dans un moment. Mais alors, restons centrés un tout petit peu sur cette. Oui.
Mais c'est parce qu'en français, le mot pourquoi, il y a pourquoi parce que. Et pourquoi pour afin que. Et en fait, Corneille a appelé Pierre parce qu'il a eu la vision, mais il ne sait pas, donc c'est parce que il a eu la vision, mais il ne sait pas pour quel motif.
Voilà, exactement. C'est pour ça que je trouve très intéressant que Pierre leur pose la question. Qu'est-ce que je suis venu faire?
Sauf ce que tu as dit. Ce qui va rencontrer des hommes impurs.
Oui.
Ça.
Donc ça, il fait quand même un pas. Il y a quand même quelque chose qu'il a été
prévenu. Je pense qu'il le découvre. Au moment où les messagers arrivent, il sait très bien qu'il va chez des Romains. Hein, donc, voilà, il aurait pu se défiler et dire « Ben non, moi j'y vais pas ». Mais bon, lui, il a aussi une mission de la part de Dieu. Donc il ne veut pas contourner la vocation ou la mission prophétique qu'il a. Donc il y va, en sachant pas trop ce qui va s'y passer. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui, déjà dès le début du verset 30, il y a trois jours, juste en ce moment, quelle que soit la traduction, à 3 heures de l'après-midi, vous voyez ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de bizarre ?
Dans ma maison, là.
En grec, c'est beaucoup moins confus.
C'est pile poil 96 heures après, en tout cas.
Merci.
Il y a déjà 3 jours dans une version et 4 jours dans l'autre.
Ah, ben ah, voilà, oui, merci. Ah. Oui, c'est quand ça, même, il y a un problème. Hein. Ah, oui, on sait qu'il a fallu 2 jours aux uns pour arriver et 2 jours pour revenir à Césarée. Mm-hmm. Chez moi, ça fait 4. Et heureusement, dans le grec, on parle bien du 4e jour.
Non, moi j'ai le 4e jour.
Parce que là, quand même, je dis, les versions françaises, il y a des moments où on se demande.
Moi, c'est la 4e jour.
Alors, il se peut. Alors, ça dépend, parce que.
3 jours.
Ouais, on parle de 3 jours. Si on fait le calcul, on sait que c'est 4, même en n'ayant pas le grec sous les yeux, d'accord. Sauf que les jours sont calculés en fonction du coucher du soleil, d'accord. Donc la problématique, c'est qu'on est dans la 4e journée, mais le 4e jour n'est pas fini. Alors peut-être que certains manuscrits ont décidé de plutôt dire, à la mode hébraïque, dans le courant de la 4e journée, donc il y a 3 jours, alors que si on s'adapte au calendrier romain, on aurait dit le 4e jour. Or le grec dit bien, dans le 4e jour, hein, au dans courant du 4e jour. Voilà. Donc, tant mieux. Mais alors, voilà, on en vient aux petits détails lucaniens que moi j'ai trouvé intéressants.
Le fait qu'il était en prière, Luc insiste beaucoup sur la prière.
Alors, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte, je pense, un petit clin d'œil lucanien en tout cas, que la vision de Corneille a eu lieu au moment de la prière, rappelez-vous, donc aux heures de prière, et que la vision prétend répondre, d'une certaine manière, à ces prières. Et on voit ici que l'exaucement, entre guillemets, de la vision qu'il a reçue et de l'invitation qu'on lui a demandé de faire se réalise exactement à la 3e heure. C'est-à-dire 3 jours ou 4 avant, à la
9e heure.
Oui, enfin, à 15 heures, on va dire, pour si l'on ne va pas s'en sortir, eh bien, la rencontre de Corneille et de Pierre a lieu 4 jours plus tard, à la même heure. Alors, c'est un petit clin d'œil, hein, lucanien, c'est un peu surprenant, mais c'est comme si Luc voulait souligner que l'arrivée de Pierre est l'exaucement de la vision de Corneille, que ça correspond à l'attente et à la demande de Corneille, qui a été faite donc 4 jours plus tôt, hein, au moment où lui priait. Et à ce moment-là, maintenant j'en viens à Madame Anne-Marie, qui posait une excellente question sur l'ange. Hein, parce qu'une fois c'est un ange, une fois c'est ci. Alors ici, ce qui est très intéressant aussi, mais on ne le sait qu'en grec, c'est qu'un homme mâle. Oui, non.
Ah oui.
Ça va perturber Anne-Marie, ça. Non, je rigole. Non. Non. Donc, tu as certains passages qui disent que c'est un ange ou un envoyé, peu importe comment on veut le traduire. Ici, on nous précise plutôt un homme masculin, reconnaissable, mais avec un détail quand même.
Oui. Oh, blanc, ouais.
Ah oui, parce que c'est un vêtement éclatant, si on traduit littéralement. Hein? Brillant, éclatant. L'emprunt en grec, c'est vraiment quelque chose, une blancheur insoutenable, hein, quelque part. Donc, je vous l'avais dit, je crois, la fois passée, cette notion de brillance, hein, de clarté, elle fait référence à la gloire divine. Donc, même si on ne dit pas un ange, on sait que l'homme mâle qui se trouve devant nous, ben, c'est un envoyé de Dieu. C'est pas n'importe qui. Voilà. Donc, alors, peu importe qu'on utilise le mot ange ou le mot aner, ici, en grec, pour finalement parler de la même chose.
C'est parce qu'un ange est un esprit. C'est ça que je trouve. Tandis que l'autre est un homme glorifié, si on veut, mais qui n'est pas un esprit. C'est ça que...
Bon, tu avais vu le mot esprit.
Corneille mais... n'est pas encore tout à fait au parfum.
Oui, oui, pour lui, c'est
Corneille qui dit j'ai vu un homme, mais vêtu d'un habit éclatant. Oui, et il n'est pas encore au parfum, il ne sait pas encore. Oui.
Et lui, il est probable que c'est peut-être la première fois dans sa vie, dans sa carrière de craignant Dieu, qu'il y ait une manifestation divine de cet acabit, quoi. Donc il est peut-être un petit peu en manque de mots, en manque de moyens pour décrire les choses.
Oui, mais il dit.
Oui, il décrit ce qu'il a vu, finalement. Vas-y.
Bah, c'est l'autre âme qui va être, qui va être choquée par la question du mal. Pourquoi est-ce qu'il le dit comme mal, alors? Si on passe son temps à dire que les anges n'ont pas de sexe. Est-ce qu'ils sont censés être androgynes?
C'est ça qui est intéressant.
Ou est-ce qu'ils n'ont pas de sexe, ils n'ont pas de... Enfin, tu vois,
bah, c'est comme les anges qui apparaissent à Abraham, hein, vous rappelez cette histoire dans la Genèse. C'est des hommes. Hein. Oui, c'est pas des femmes.
Moi, il ne les présente jamais différence. Comme étant une femme ou ressemblant à une femme. Ils ont des prénoms d'hommes aussi.
Dans l'Ancien Testament, toutes ces manifestations, c'est des mâles.
Ce qu'on veut dire, c'est pas tellement qu'ils n'ont pas de... Genre, c'est juste qu'ils n'ont pas de sexe, oui. Ils n'ont pas d'organes reproducteurs.
Voilà,
quoi.
Par exemple.
Mais ils seraient plutôt genre...
Tu pourrais dire qu'en Dieu, il y a tout. Dans la Trinité. Il y a du féminin, il y a du masculin. Mais du coup, les anges sont plutôt catégorisés masculins. Je ne sais pas quelle est la raison fondamentale. Hein.
Ils n'ont pas de tendresse. Qu'est-ce que t'as dit?
C'est les anges qui ont la porte.
Et même quand les femmes vont les envoyer, ça, c'est quand même des
hommes. On pourrait se poser la même question à propos de Jésus, finalement.
À ce moment-là,
tu vois, est-ce que le Jésus, pourquoi un Jésus masculin?
Parce qu'on ne va pas laisser parler une femme.
Est-ce qu'on peut dire, mais là, je vais probablement choquer les gens parce que je ne sais pas comment le dire. Je n'ai pas un vocabulaire suffisamment développé que pour pouvoir exprimer ça. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que Dieu met une certaine prépondérance de l'homme par rapport à la femme? Mais voilà. Alors, ça ne veut pas dire que j'amoindris la femme. Ça ne veut pas dire que je dis que c'est la subalterne, l'esclave. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais Dieu, okay, Dieu, c'est pas qu'il est misogyne, mais il met quand même une importance sur l'homme, et la femme étant l'aide de l'homme. C'est dans ce sens-là. Et... Quand Ève a chuté, Dieu lui a reproché d'avoir chuté, mais il a reproché à Adam aussi de ne pas avoir accompli sa mission de responsable. Et parce que Dieu considère toujours Adam comme étant le responsable, bien que Ève a chuté, elle est coupable aussi. Mais Adam n'a pas accompli sa mission. Et Dieu attend autant de la femme que l'homme le respect, l'amour et l'adoration pour Dieu, mais il y a quand même une importance, non pas pour amoindrir la femme, mais il y a quand même une importance de responsabilité qui pèse sur les épaules de l'homme.
On dit que l'homme est chef de la femme.
En ce qui concerne la réponse à la question sur Jésus...
Je ne suis pas assez intelligent que pour développer ça, mais c'est ce que je ressens dans la Bible. Mm-hmm. Et je le dis franchement, je ne suis pas quelqu'un qui dénigre la femme et qui décide que la femme est moindre que l'homme, ce n'est pas ça. Mais je vois dans la Bible que Dieu met de la responsabilité sur l'homme. Pourquoi est-ce que dans les tribus, des Lévites notamment, il n'y a que des hommes? Pourquoi est-ce que Dieu n'a choisi que des hommes? Dieu a aussi permis parfois qu'il y a des prophétesses, que parfois la femme a été aussi une occasion d'entendre la parole de Dieu, mais le rôle de guider le peuple était surtout sur le dos des hommes. Et c'est pour ça que, pour moi, les hommes qui sont apparus à Abraham et d'autres dans la Bible, d'autres histoires, pourquoi aussi l'ange a un aspect d'homme? C'est parce que Dieu a, pour chacun, homme et femme, un rôle différent, mais complémentaire. Voilà. Je voudrais pouvoir développer ça, mais je ne sais pas.
Moi, je pense aussi que, étant donné... Déjà, encore maintenant, c'est difficile, mais la femme n'avait droit à rien dire. Avant, c'était les hommes qui faisaient...
Ça dépend des périodes, en tout cas. Si on regarde l'Ancien Testament globalement, il y a eu des périodes où les femmes étaient très actives et au premier plan. Et puis tout d'un coup, au premier siècle, ça s'est rétréci à cause des pharisiens. C'est les pharisiens qui ont tout fait. À la limite, quand tu lis certaines références Talmud et compagnie, tu t'aperçois que la femme n'est rien au premier siècle. Et on voit bien que Jésus prend le contre-pied. Souvent. Souvent, il remet la femme à une place qui est une place d'honneur. Mais il le fait exprès, par rapport à l'environnement et aux croyances du moment. Qui était quand même assez terrible, quoi. Mais donc, je voulais quand même ajouter un truc, parce que je posais de manière un peu vache la question pourquoi Jésus masculin. En fait, on a affaire au deuxième Adam, c'est-à-dire au véritable Adam. C'est la raison pour laquelle il est masculin. Pour reprendre le job que Adam n'a pas su faire, qui était de protéger, qui était, voilà, bon, etc. Quoi. Bon, maintenant, revenons à nos moutons. Donc, on était sur ce fameux ange masculin. je crois qu'on en a déjà dit pas mal sur cet ange. On ne va pas passer toute la soirée là-dessus non plus. Sauf s'il y a encore une dernière question. Et on va continuer un tout petit peu. Donc on était au 30. Après, je vous avais posé la question de savoir s'il y avait des différences entre les deux rapports de vision, c'est-à-dire la vision de Corneille qu'on nous a décrite dans les versets 3 et suivants, et puis maintenant, est-ce que c'est la même ?
Justement, la différence entre
l'ange ou l'homme.
Oui, déjà.
Un, il entre dans la maison, et l'autre, il se présente devant.
Oui.
Alors, petit détail.
Oui.
Il faut dire qu'aussi au verset 3, qui est-ce qui raconte ça?
Ben là, c'est Luc qui fait le récit.
C'est Luc qui fait le récit.
C'est Luc qui fait les récits.
Après, on a un petit résumé par les envoyés, au milieu, là, à peu près. Et puis maintenant, c'est Corneille lui-même qui re-raconte sa version, enfin, de la vision qu'il a eue.
Quatre jours sont passés.
Oui.
Comment est-ce que Corneille, finalement, qui a tourné ça dans sa tête, a peut-être édulcoré aussi la vision avec les 4 jours.
Ou mûri, ou... Ouais. Mais bon, maintenant, les différences sont assez minimes. On ne peut pas dire qu'elles sont extraordinaires. Il y en a encore une autre. Je ne sais pas si vous l'avez zappée ou pas. Bravo, Anne-Catherine.
Même blanc,
qu'est-ce que tu as dit
blanc, moi, j'avais rien vu. J'étais là, ouais, c'est le même.
Parce qu'on est habitué
habitant d'un homme.
Ah oui, là, ça aurait été différent. Ah non,
c'est toutes ces différences, ça nous montre une chose. Dans un cas, c'est Luc qui raconte, dans un deuxième cas, c'est les envoyés, dans un troisième cas, c'est l'auteur lui-même, celui qui a reçu la vision. Donc on peut estimer que oui, il peut y avoir des différences parce que les autres n'ont pas vécu la vision, déjà, tu vois. Bon, alors ils rapportent avec leurs mots ce qu'ils ont cru comprendre de la vision de l'autre, hein, etc.
Et ça,
bon, ça, c'est pas très grave. Moi, je pense qu'il n'y a pas de différence si importante qu'elle détruirait quelque part quelque chose à la vision. D'accord ? Donc en fait, il y a une dernière petite différence, c'est le mot prière qui est au singulier, alors que dans la première formule, elle était au pluriel. Ce qui pourrait nous laisser entendre.
C'est prière d'avant.
Oui. Ça peut être ta prière dans un sens très général, chaque fois que tu as prié, mais ça peut être aussi la fameuse prière de ce jour-là. Ici souligné, par exemple. Voilà. Donc, rien de bien grave en soi, quand on sait que cette vision nous est rapportée 3 fois, avec des angles différents, ça me semble assez satisfaisant, quelque part. Mais on ne sait toujours pas quelle est la réponse à la question de Pierre avec tout ça. Alors, il nous reste encore un petit truc. Dans la tobe, il est dit au verset 33a, tu as été assez aimable pour nous rejoindre. Et dans ta traduction tout à l'heure, Robert, tu avais autre chose, je crois.
Au 33 ?
Oui, 33A, début. Tu as bien fait, c'est ça ?
De venir, oui.
Oui,
tu as bien fait de venir.
Qui est plus conforme au grec. C'est plus proche du grec que l'histoire de tu as été assez aimable pour nous rejoindre, même si ça dit la même chose. Donc, cette formule-là, c'est un peu l'expression d'une appréciation positive.
Oui.
Sous-entendu, je suis content que tu sois venu. Oui. Et en même temps, de la gratitude de Corneille à l'égard de Pierre, le juif, qui a accepté de venir. Et au fond, on pourrait dire, l'expression en grec pourrait très bien être traduite « merci d'être venu ». Tout simplement.
Là. Voilà.
Quelque chose dans ce goût-là. Et verset 33b, ben, « maintenant, nous voici tous devant toi ».
Devant Dieu.
Ah, ben voilà, j'attendais. Oui, mais il y a les deux, justement. Donc. Oui, pas en grec. Hein. Il y a des manuscrits qui le disent en grec et d'autres non. Donc certains, c'est devant toi, et dans d'autres manuscrits, c'est devant Dieu. Comme une sorte de reprise du verset 31. Si vous regardez au verset 31, c'est devant Dieu que ça se passe.
Oui.
Alors peut-être que certains manuscrits ont voulu faire rebondir ce devant Dieu du verset 31, mais quoi qu'il en soit, même s'il y a cette variante-là dans les manuscrits, ben, on peut se dire que de toute façon, ça se passe quand même devant Dieu,
oui,
tout ce qui va se passer là. Hein, cette toi, rencontre, elle est toujours...
Tu veux dire devant Pierre.
Devant Pierre, oui.
Oui, mais Pierre est venu, parce que Dieu a... Il est représentant de Dieu, finalement.
Bien sûr.
Donc... tu dises toi en sachant qu'il est représentant Dieu ou de dire Dieu.
Ou devant Dieu, ça change pas grand-chose.
C'est pas, oui. Pas Dieu, c'est un représentant.
Mon père.
Est-ce que toute cette histoire voudrait montrer que, en fait, Corneille était en recherche, qu'il voulait aller plus loin dans sa rencontre avec le judaïsme et que Dieu, donc, a accepté, a accédé à son désir.
Oui.
Quelque part.
Oui, puis en même temps, je pense que ça permet à Dieu d'ouvrir franchement la porte aux païens. Chose qu'il souhaite, qu'il veut, qu'il désire. C'est lui qui est à la manœuvre. Donc il fait tout pour que ça se réalise. Et il accède. Alors, il ne fait pas tout comme un magicien, hein, du jour au lendemain, en reconnaissant les païens. Mais il fait en sorte que sur la demande d'un païen, cette ouverture soit beaucoup plus précise que dans le travail des apôtres jusqu'à présent. Qui n'ont toujours pas réalisé le quart du quart en ce qui concernait l'ouverture aux païens. Même s'ils ont converti des païens, déjà. Rappelez les récits où ils étaient en... Ah, je ne trouve plus le mot maintenant. En Samarie, par exemple. Hein. Voilà. Alors, ben oui, c'est exactement ça. Je pense qu'il y a quelque chose qui se déroule. Et alors, donc, il dit maintenant, nous voici tous devant toi. C'est un peu comme si... Corneille lui disait, ben nous, on est en attente, là, maintenant, que ce soit devant Dieu ou devant toi. Et finalement, il répond enfin à la question que Pierre avait posée. Qu'est-ce que je suis venu faire de chez vous? Il le dit.
Entendre ce que le Seigneur dit.
Voilà.
Il renvoie la patate chaude à Pierre.
Voilà, exactement.
Mais qu'est-ce que vous voulez? Attendez-nous le dire.
Ouais. Pour écouter tout ce que le Seigneur t'a chargé de nous dire. Alors, en grec, on a quelque chose d'assez fort, puisqu'on nous dit « pour entendre ce que le Seigneur t'a prescrit ». Sous-entendu, t'as ordonné, commandé de dire. Alors ça, c'est assez intéressant, parce que jusqu'à présent, on avait l'impression que Pierre ne savait pas trop ce qu'il devait faire là, mais manifestement, Pierre a quand même reçu une mission.
C'est quoi ça ?
Alors, cette mission... Je ne vais pas dire que la mission, c'est un truc spécifique à Corneille et à ses invités, mais à tout le moins, la mission, c'est de prêcher l'ouverture et la bonne nouvelle aux païens. Donc ça, c'est clair que Pierre a déjà quelque chose. Maintenant, le texte ici semble vouloir dire que le Seigneur, alors Dieu ou Jésus, peu importe, le Seigneur l'a chargé de quelque chose de précis. Il doit manifester quelque part. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que je pense, comme tu disais, papa, tout à l'heure, que Corneille est dans l'attente de quelque chose de plus dans son judaïsme qu'il pratique et qu'il réunit ses amis, d'ailleurs, qui ont peut-être la même soif que lui. Et donc, on se trouve ici devant une assistance de gens assoiffés qui nous disent « Mais nous, on a soif ». On a soif de plus, on a soif de comprendre, on a soif d'aller plus loin dans la connaissance de votre Dieu. Donc les invités sont déjà d'une certaine manière gagnés à quelque chose. soif d'entendre les paroles que Dieu va inspirer à Pierre, si ce n'est déjà fait. Ou pour le dire autrement, soif du Dieu d'Israël. D'ailleurs, si vous me permettez une parenthèse, soif que nous devrions toujours avoir, car le Dieu que nous adorons ne nous appartient pas. C'est ça que les chrétiens ont du mal parfois à se mettre dans la tête. Ce n'est pas leur Dieu.
On s'est approprié.
C'est le Dieu d'Israël, le Dieu du peuple d'Israël. Et donc, soif d'un Dieu qui n'est pas le nôtre, finalement. Et donc, moi, j'estime qu'avec une telle disposition, vous voyez, spirituelle, nul doute que l'assistance va être réceptive. C'est déjà du pain béni, si vous voulez. C'est déjà gagné, d'une certaine manière. Et donc, la prédication de Pierre, elle fera mouche nécessairement. Elle va porter des fruits parce que toute l'assemblée qui est là attend quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, ça va leur tomber dessus, hein. On ne peut pas s'en rendre compte.
Je ne saisis pas ce que tu as dit. Ah. Que ce n'est pas leur Dieu, tu dis.
Ben non,
le Dieu. Non, c'est le Dieu d'Israël.
Attends, c'est le Dieu d'Israël. Mais il a commencé par ça. Et le but, c'est qu'il devienne le Dieu de tout le monde.
De toutes les nations.
De toutes les nations. Mm-hmm. Donc, au début, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais maintenant, c'est le Dieu de tous ceux qui croient en lui.
Oui, à la condition qu'on continue de reconnaître que c'est bien celui d'Israël. Voilà. Sinon, tu tombes de nouveau. Mais
que c'est celui d'Israël, au début. Il faut bien. Mais oui, je ne sais pas comment m'exprimer.
Je
ne
suis pas sûre de l'importance non plus que ça.
De celui qui s'est révélé à un homme qui s'appelait Abraham.
Voilà. Ouais.
C'est pas un autre Dieu, c'est celui-là.
C'est celui-là.
C'est celui-là.
Donc, si tu veux ne pas tomber dans, si tu ne veux pas tomber dans les faux dieux,
oui, tu,
tu es bien obligé de dire duquel il s'agit.
Ouais, c'est celui qui s'est révélé.
Oui, allez, je vais prendre un exemple, quand même dans
prospective, je dis, c'est pas un mot. C'est
pas grave. Dans l'histoire de l'Église, autant côté catholique que protestant, un peu moins chez les orthodoxes, on s'est quand même royalement planté. Parce qu'on a quand même fait des choses qui étaient loin d'être conformes à la volonté du Dieu d'Israël. Y compris quand, et je pense à Luther, quand on a commencé à écrire des conneries sur le judaïsme. Parce que Luther, là, s'est fameusement planté. Et donc ces fameuses thèses de Luther, elles ont quand même mené un certain régime nazi à devenir profondément antisémite. Et ça, c'est pas le catholicisme. C'est bien le protestantisme luthérien. Il ne faut pas l'oublier, ça, non plus. C'est pour ça que c'est très important de rester attaché à la notion de quel Dieu parle-t-on. On parle d'un Dieu, comme ça, un peu à la voltairienne, ou est-ce qu'on parle du Dieu d'Israël? Mais qu'au fond, nous sommes que les enfants adoptifs de ce Dieu.
Nous avons été greffés.
Vas-y, papa, tu...
Il m'a fallu très longtemps pour comprendre, pour réaliser que Jésus était juif, qui pratiquait la religion juive.
Bien sûr.
C'est quand même très important. Dieu ne l'a pas fait naître n'importe où sur la terre. Il est né en Israël, dans ce peuple-là. Bien sûr. Antisémites, les églises ont été, les sociétés ont été, les dirigeants des gouvernements ont été jusqu'à maintenant.
Ça recommence. D'une certaine manière.
Et de plus belle.
Il y a des chrétiens qui pensent que Israël s'est terminé.
Ah oui, oui.
Et que Dieu s'est complètement détourné de son peuple. Mais Dieu a un plan pour son peuple.
Et puis la Bible a toujours dit qu'il n'a pas changé son peuple.
Et surtout dans le milieu chrétien, protestant, évangélique, on a vraiment parfois l'impression qu'on remplace Israël.
Ah, tout à fait.
Oui, et ça, c'est une terrible erreur, je pense, théologique. Il y a quelque chose qui n'est pas juste là-dedans.
Donc qu'est-ce qu'ils disent?
Ben qu'au fond, le peuple d'Israël, c'était pour le passé, maintenant c'est fini. Israël, c'est l'Église. Ben non.
Ça, Constantin, tu peux pas, déjà.
Tu peux pas dire des choses comme ça.
Constantin,
d'un point de vue strictement théologique et biblique, ça ne tient pas la route.
Ils sont retirés de tout ce qui était juif. C'est pour ça que le dimanche a été choisi.
Et d'ailleurs, du sabbat, c'est grâce à des choses comme ça que tu finis par être antisémite. Hein, quand tu commences à croire que tu es au-delà. Voilà. Y a-t-il des applications? Oui, vas-y.
Tu sais dire en gros avec les thèses de Luther.
Pas bah, il faudrait lire, il a écrit un joli petit livre.
Oui, oui, oui. En gros, pourquoi ça a été peut-être incitant à l'antisémitisme?
Parce qu'on rejetait la faute de la mort de Jésus, un peu comme dans le catholicisme, à un certain moment. Donc finalement, Israël n'a plus droit au chapitre parce qu'ils ont tué Jésus.
Point final. Ici. Donc, c'est fini.
Et là, il a écrit des pamphlets, mais terribles, Luther. Des petits pamphlets, mais terribles, terribles contre les Juifs.
Il avait des bonnes idées. Mais évidemment, il venait du catholicisme aussi. Donc il avait un mécanisme.
Peu importe. Tu te dis comment un gars comme ça, un réformateur comme ça, qui a eu tellement d'intuitions sur Galates, par exemple, hein, la foi qui sauve, etc., comment tu peux tout d'un coup sombrer dans quelque chose qui...
Et parce qu'il a gardé, tu vois,
comme
justement...
Comme tu parlais de ton Pierre.
Moi, ce que je veux dire, moi, c'est quoi...
Tout ce qu'il avait eu.
À ce moment-là, on aurait dû jeter... on aurait dû, allez, jeter un bon coup de pied dans la fourmilière et revenir et regarder dans les actes et repartir sur quelque chose de bon. Mais on est reparti sur quoi? On est reparti sur Constantin. C'était des gens qui avaient le catholicisme qui était ancré en eux et ils font une découverte, mais ils gardent... Tu vois, parce que ça fait partie de tes traditions, ça fait partie de tes coutumes. Qu'est-ce que tu veux? C'est inné à l'homme. L'homme ne sait pas naître comme ça. Tu vois, bon, si, Paul, mais à part Paul qui a vraiment changé comme ça, les autres qui ont une évolution.
Il faut surtout qu'on comprenne bien que dans l'histoire de l'Église, il y a eu plus souvent des conversions de type islamique, si tu veux, que de foi personnelle. Donc au fond, c'est vrai, quand on vient avec trois épées te dire, toi tu deviens tu restes catholique ou tu deviens ceci ou protestant, tu finis par dire oui, tu n'as pas envie d'être zigouillé. Donc moi ça m'a toujours sidéré, ça, tu vois, qu'on pense, quand on parle de chrétienté, de laquelle parle-t-on? De celle du cœur, des convictions profondes et personnelles, ou de celle qu'on a imposée par la force, la torture même, devrais-je dire?
Un truc un peu amusant, si vous permettez, ce pauvre Luther ne saura jamais, puisque il est mort depuis longtemps, que dans le régime de l'Allemagne de l'Est, il était un des précurseurs du communisme.
Oui.
On n'est pas touché surtout à Luther.
Mmh.
Ah oui, c'était Luther, même Goethe, Schiller, les
grands philos,
les littérateurs, si vous dites. Tout ça, c'était devenu communiste. C'est fou.
Communiste avant l'heure.
J'ai jamais entendu parler.
Ok, bon, je voudrais... Il est déjà 9h, donc je voulais juste vous indiquer ce qu'on a... Oui, vas-y, Anne-Catherine, excusez-moi.
Non, c'est parce que... Du coup, si, donc Israël reste le peuple de Dieu. Nous faisons partie du peuple de Dieu, mais nous ne sommes quand même pas le peuple de Dieu. C'est ça l'idée. Je comprends.
Nous sommes greffés, dirait saint Paul.
Les enfants d'Abraham.
Non, oui. D'accord, oui,
mais bon. Ça vient dans ton sens aussi. Tout peuple d'Israël, c'est notre histoire.
Disons.
Notre jeunesse, notre passe, etc. Il ne faut pas renier. Ça, je suis d'accord. Mais il faut aller au-delà, je trouve.
Ce qu'il faut maintenir, c'est deux choses difficiles. C'est d'un côté l'élection d'Israël sur laquelle Dieu n'est jamais revenu.
Oui,
c'est là qu'il y a erreur dans certains milieux évangéliques, de croire que Dieu a remis en cause l'élection. Non. Donc ça reste à la fois le peuple élu, et nous sommes le peuple hanté sur ce peuple-là, même si on n'est pas admis par eux.
Oui.
Voilà, parce que quand même, beaucoup de Juifs nous crachent.
Oui.
Voilà. Nous, avec notre Messie farfelu, là. Même si les Juifs, désolé, mais pour eux, c'est pas la vraie religion. Non,
c'est ça, vrai. C'est les deux choses comme ça opposées, alors que finalement, c'est une continuité.
Oui,
je veux
dire,
même, c'est une
amélioration. Mais donc,
c'est ce que Dieu
voulait. Ce que promet l'Écriture, c'est qu'à un moment donné de l'histoire, la conjonction se fera.
Oui.
Israël reconnaîtra le Messie. Et nous serons véritablement devenus peuple avec eux, fils de Dieu avec eux, etc.
Mais
il faut attendre gentiment. C'est pas à l'Église à forcer, c'est pas aux autres non plus.
Le jour où ils connaissent le Messie,
les choses iront toutes seules.
Ben oui.
Je pense à un arbre.
T'as une racine, t'as le tronc, et puis à un moment donné, il y a une greffe.
Oui.
Bah oui, bah tu
c'est
vois,
ça.
Et tu peux pas.
Et parfois, il faut attendre un certain temps pour voir des fruits.
Il faut attendre très longtemps. Voilà. Et parfois aussi, tu as deux branches différentes aussi. Tu vois c'est, ouais. C'est... Mais il faut reconnaître que le tronc là-bas, c'est toujours comme la même. Ça, c'est vrai.
Parce que tout prend racine en Abraham.
Nous faisons partie du peuple aussi. Et c'est là, le mot peuple a peut-être deux sens. Il y a le peuple d'Israël.
En tout cas, tu as le peuple de Dieu. Ça, c'est peuple de grâce à Israël.
La prunelle des yeux de Dieu. Mais tout qui, par la foi, entre dans l'adoration et l'amour de Dieu, et qui est accepté par conversion, par grâce, entre dans le peuple de Dieu. On devient l'enfant de Dieu.
Mais nous devons reconnaître à quel titre, tu vois, c'est ça, nous devons reconnaître à quel titre nous le sommes.
Ouais.
Ne jamais perdre de vue que c'est l'adoption.
Ouais.
Oui.
Mais se croire devenu Israël à la place d'Israël, ah non, ça, là, c'est
pas vrai.
Ok, alors, pour finir court, quelques applications ou pas
c'est bien.